Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface. Les Caprices de Thérèse, dégustez l'excellence. Chut, on écoute la télé avec votre agence de voyage Les Ailes du Partage. Amandine, votre interlocutrice privilégiée, vous proposera voyage à la carte et sur mesure, adapté à votre budget dans le monde entier. Passez du rêve à la réalité en réservant votre prochain voyage au 06 72 32 47 67 et sur voyage-solidaire.com.
Succomber au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Allez, au sommaire de ce nouveau numéro de Chut, on écoute la télé. Deux coups de cœur cinéma cette semaine. Le premier consacré au film Le Système Victoria qui sortira mercredi dans les salles. Sylvain Desclous, le réalisateur, sera avec nous. Nos coups de cœur télé consacrés au grand retour de Marie au premier regard ce soir sur M6 avec une ancienne candidate, Alicia, qui sort un magnifique livre dont on va vous parler également dans un instant. Olympe, une femme dans la révolution, c'est l'événement ce soir sur France 2. Mathieu Busson et Julie Gaillet seront avec nous pour en parler. Et puis coup de cœur télé pour L'Intruse, la mini-série événement de France 2 mercredi soir. À cette occasion, nous recevrons eh bien justement une des créatrices, Nathalie Abdelnour, la réalisatrice Charlène Monsara et puis les deux comédiennes principales, Lucie Fajdé et Mélanie Douté. On parlera également de Joseph, la nouvelle série de TF1 qui débarque jeudi soir. Lucien Jean-Baptiste, Sébastien Mounier, l'un des scénaristes, Mathieu Ageron, l'un des producteurs et Dounia Cossins seront nos invités pour en parler. Et puis deuxième coup de cœur ciné consacré au film Dans la cuisine des Nguyen qui sortira également mercredi au cinéma. À cette occasion, le réalisateur Stéphane Nikoung et Clotilde Chevalier seront avec nous. Vous l'avez compris, on va encore pas s'ennuyer aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur cinéma cette semaine est consacré au film Le Système Victoria qui sortira mercredi en salle. Un film de Sylvain Desclous qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour Sylvain.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Dans ce film que moi j'ai pu découvrir en avant-première au festival d'Angoulême, on y dépeint le portrait de David qui est un architecte et directeur de travaux et qui va sous la pression rentrer sous l'emprise un peu d'une DRH qui est libre, fantasque on peut dire au premier abord, mais aussi très manipulatrice. C'est Le Système Victoria, joué avec brio par Jeanne Balibar.
Oui, bah c'est vrai que quand le film commence, on a notre personnage principal, David, qui est un architecte un petit peu frustré, qui n'a pas réussi à percer dans le métier dans lequel il rêvait et auquel il se destinait. C'est un peu un artiste. Et qui du coup s'est rabattu sur un travail alimentaire très compliqué qui est la construction de grosses tours dans la défense. Donc c'est un personnage qui a vraiment, sur les épaules duquel pèsent vraiment des contraintes incroyables, des contraintes de calendrier, des contraintes financières, des contraintes humaines, professionnelles et aussi familiales. Donc il est très acculé et c'est souvent quand on est acculé que tout d'un coup il y a une petite porte qui s'ouvre et quelqu'un qui arrive, et en l'occurrence c'est le personnage de Victoria.
Alors on va voir si c'est pour le bien ou pour le mal, en tout cas c'est ce qu'on va découvrir dans le film. C'est une adaptation d'un roman.
Ouais, c'est l'adaptation d'un roman qui porte le même nom, Le Système Victoria, écrit par Eric Reinhardt et qui est sorti en 2011.
Qui était un best-seller d'ailleurs.
Qui a très bien marché. Et c'est vrai que moi j'ai découvert le livre à sa sortie en 2011 Et la première chose que je me suis dit, ce serait super d'en faire un film. Voilà. Et je suis très heureux, voilà, de, que 10 ans après, l'occasion soit présentée. Et même s'il a fallu effectivement, évidemment, adapter quelques aspects du roman
pour le rendre cinématographique.
Absolument, parce que c'est un roman qui est touffu. C'est un roman qui se termine de manière assez tragique. Et c'est vrai que j'ai demandé la permission à Eric d'adapter la fin et de trahir un petit peu et d'offrir aux spectateurs une fin un tout petit peu plus
optimiste et ouverte.
Absolument, ouais, voilà, c'est ça.
L'idée, elle est venue 10 ans après. C'est un sujet, même 10 ans après le roman, qui est terriblement d'actualité. La pression au travail, les DRH, les multinationales, etc. C'est quelque chose qui est très d'actualité aujourd'hui, hein, en plus. Hein.
Bah, moi, c'est ce qui m'a plu immédiatement quand j'ai lu le livre, c'est que c'était une histoire d'amour très singulière, très sensuelle, très sexuelle, mais aussi c'était la description d'un univers socio-professionnel très fort, avec un vrai point de vue là-dessus, une vraie dénonciation. Ma chance est tragique pour le monde dans lequel on vit, c'est que le constat reste cruellement d'actualité 10 ans après, et que les conditions dans lesquelles David exerce son travail, je pense que c'est des conditions de travail que subissent et que connaissent des millions de salariés en France et puis un peu partout ailleurs, ouais. Donc rien n'a changé, ouais.
Alors, ce qui est assez pernicieux, c'est qu'effectivement, il y a une histoire d'amour qui se noue en plus entre David et cette DRH, et à tel point que quand il va comprendre dans quoi il est tombé, lui-même va appeler ça le système Victoria. Pourquoi l'appeler système Victoria, justement ?
David en fait le reproche à Victoria dans le film, en dénonçant effectivement le système qu'elle a mis en place. Et je pense que quand il dit ça, il dénonce le fait qu'elle a totalement organisé sa vie de manière très cloisonnée, avec une liberté sexuelle totale, une jouissance un peu sans entrave.
Une froideur aussi par moment.
Une froideur et en même temps, elle est drôle, elle est gourmande de la vie et elle s'est débrouillée pour que tout ça avance et que jamais elle n'en subisse ni les conséquences ni les contre-coups. Et elle avance comme ça totalement. C'est comme si elle était totalement coupée des conséquences de ses actes. Et je pense que c'est ça le système Victoria que dénonce le personnage principal.
On a l'impression que rien ne l'atteint. Je me souviens de cette scène, par exemple, où ils vont au restaurant ensemble. Et là, non seulement il y a son ex-mari qui se trouve au restaurant, mais son amant aussi. Enfin, bref, tout le monde se retrouve et David se sent très très mal à l'aise dans cette espèce de cloisonnement, à tel point qu'il met au point un stratagème pour fuir.
Mais c'est vrai que, et il en fait le reproche à Victoria, et elle évolue de manière assez naturelle là-dedans, dans ce jeu de contraintes, de non-dits, de mensonges. Et c'est ça qui la rend si fascinante, c'est qu'on a l'impression effectivement que rien ne l'atteint, rien ne la menace, qu'elle retombera toujours à sa place de manière élégante et spirituelle. Donc ouais, c'est un vrai personnage de cinéma. J'avais pas lu ni vu de personnage aussi fascinant, aussi mystérieux depuis très longtemps, quoi.
Alors, il y a François Bunel, Cédric Appieto, il y a plein de monde autour, hein, évidemment. On va en continuer à en parler dans un instant. On va écouter d'abord la bande-annonce, ce système Victoria. Ça sort mercredi dans les salles. Le réalisateur Sylvain Desclous est avec nous aujourd'hui pour en parler. À tout de suite.
J'ai besoin que vous et votre équipe fassiez ce que vous vous êtes engagé à faire et accessoirement ce pour quoi je vous paye. C'est-à-dire terminer le plus rapidement possible cette tour. Est-ce qu'on est d'accord ?
Mais oui, t'es en retard. On est en retard parce qu'on est en retard.
Il y a une solution ? Non, mais on va trouver.
Monsieur ? Ça aurait été dommage que quelqu'un vous l'apprenne.
C'est pour ma fille, c'est son anniversaire aujourd'hui.
Appelez-moi si vous passez à Bruxelles, comme ça vous m'offrirez un café.
Pourquoi est-ce que vous démissionnez si c'est pas indiscret ?
Ça fait longtemps que j'ai l'impression de pas être à ma place.
Terminez-le ce chantier. Tout le monde saura que c'est grâce à vous.
Si je lâche, vous êtes dans la merde dans la minute qui suit. Tu veux une augmentation ?
Non.
Du respect.
Le système Victoria, le film à ne pas manquer dans les salles mercredi. Sylvain Desclous est avec nous, le réalisateur, pour en parler. Outre le fait d'être tombé peut-être en amour, on va dire en quelque sorte du roman, qu'est-ce qui vous a attiré d'aller effectivement réaliser le film sur ce sujet, le sujet du travail ? Est-ce que vous avez connu peut-être aussi des gens qui ont été touchés de près ou de loin par ce monde du travail de façon pernicieuse par moment ?
Comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que là, j'ai fascination totale pour le bouquin dès que je le découvre, lors de sa sortie, et conviction ensuite qu'il y a un vrai film à faire, adapté de ça.
Est-ce que ça fait résonner en vous, peut-être quelqu'un que vous connaissiez, qui vous avait raconté peut-être déjà aussi quelque chose qui vous a poussé à vouloir l'adapter ?
Il se trouve, pour l'anecdote, que moi j'ai longtemps gagné ma vie en faisant des jobs alimentaires, et qu'à l'époque où je découvre le bouquin, je suis moi-même en train de faire un job alimentaire qui n'a absolument rien à voir avec le cinéma. J'organise un séminaire de travail pour un grand cimentier. Voilà, donc rien à voir avec le cinéma. Et en même temps tout à voir, parce que ce que je vois sous mes yeux quand j'organise ce séminaire, le fonctionnement des équipes, la manière dont les uns et les autres se parlent, la contrainte, les objectifs, etc., illustre complètement le bouquin que j'étais en train de lire. Donc je me dis, voilà, c'est vrai, allons-y, fonçons.
Ah oui, c'est clair, fonçons. Est-ce qu'il y a une scène particulière que vous redoutiez peut-être au tournage ou qui a été plus compliquée qu'une autre?
Alors que je redoutais, la scène d'amour, la première scène d'amour entre Victoria et David, parce que c'est l'incarnation charnelle de l'attirance
du couple.
Voilà. Et donc, on pouvait pas ne pas la faire. Et il fallait qu'elle ait sa vraie durée. Et c'est une scène qui est assez longue. Et en même temps, il fallait conjuguer sensualité, mystère. Mais je voulais éviter l'inélégance, je voulais éviter le voyeurisme. Donc voilà, c'est une scène qu'on a beaucoup travaillée, qu'on a beaucoup répétée.
Et... c'est une scène charnière quand même, parce que c'est aussi le début un peu de ce qu'on peut appeler une emprise.
Bah, c'est elle qui prend les choses en main. Voilà. Je peux pas en dire plus, mais elle se révèle véritablement pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une femme puissante qui prend ses responsabilités. Ouais.
Bon, c'est quelque chose en tout cas qui peut résonner certainement chez beaucoup d'entre vous. On vous invite à aller découvrir le système Victoria au cinéma. Sylvain, il y a déjà des projets? Est-ce que vous projetez peut-être déjà dans un prochain film?
Eh ben, je commence l'écriture d'un prochain. Alors, je pense qu'on va quitter l'univers du travail et de la politique et du pouvoir, mais j'en suis pas sûr. En tout cas, là, ce serait l'histoire de deux frères, voilà, qui se retrouvent après pas mal d'années séparées. Et l'un, évidemment, a plus ou moins bien réussi dans la vie. Ça va occasionner entre eux des choses pas très sympathiques. Voilà, je commence l'écriture, donc j'en sais pas plus.
Bon, en tout cas, si vous avez envie, je vais inventer un nouveau mot, un thriller professionnel. C'est pas mal, ça.
C'est pas mal. Ça me plaît beaucoup. C'est une bonne piste. C'est très bien.
Bon, et ben, en tout cas, allez voir le système Victoria. C'était donc mercredi au cinéma. Merci beaucoup, Sylvain, d'avoir été avec nous. On va se requitter avec un petit extrait et puis on se dit à bientôt.
Merci beaucoup.
Tchaikovsky, il y a quelqu'un qui aimerait vous parler.
On m'a proposé 300 000 euros si je livrais chantier avec 6 semaines de retard.
C'est qui, on?
Tu m'as pas dit ce que tu faisais à Paris? Il y a d'autres choses que tu me caches?
On s'en fiche, c'est pas important.
Bah, c'est pas important, pourquoi tu me le dis pas?
C'est bientôt fini cet interrogatoire.
C'est ton mari, non?
Je suis libre, David, je fais ce que je veux.
Regarde l'état dans lequel on est tous les deux.
Ouais, faut bien qu'on la finisse cette putain de tour!
Victoria, en fait, je crois qu'il faut qu'on arrête.
Maman, je crois que tu te trompes, David. On se rappelle.
On est en plein dans ton système. Un truc de puissance totale. Puisque vous, les puissants, vous fixez des objectifs démesurés en sachant très bien qu'il y aura toujours un pauvre type pour essayer de les rattraper.
Moi, je crois que ça vous excite, en fait. Comme ça, vous réalisez l'impossible, vous devenez héroïque.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Et notre coup de cœur télé est consacré à Marie au premier regard, qui évidemment fait son grand retour ce soir sur M6 pour une toute nouvelle saison inédite, la 9e, avec beaucoup de surprises qui nous attendent. Mais d'abord, avant de découvrir cette nouvelle saison et puis surtout ces nouveaux couples qu'on va peut-être voir se former devant nous, eh bien nous allons prendre des nouvelles des anciens candidats et notamment Alicia, que vous avez connue lors de la saison 5, qui nous avait bouleversé par son histoire personnelle et puis son idylle avec Bruno, qu'on avait vécu évidemment sur nos écrans. Alicia, bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour, c'est un plaisir d'être là.
Ma chère Alicia, non seulement on va parler évidemment de ton aventure après de Marie au premier regard, mais surtout on va parler aussi de ton livre « Respire encore, le souffle de la résilience », un livre bouleversant où on est pris direct dedans, où tu te racontes à cœur ouvert de ce que tu as vécu évidemment avec cet accident dramatique, où tu as perdu ta sœur dans cet accident. Et c'est un vrai livre à la fois d'espoir, de résilience, qui peut aider beaucoup de monde. Donc on va en parler dans un instant. Et d'abord, on va revenir un peu quand même sur ton aventure Marie au premier regard. Écoute, c'est complètement dingue, parce qu'on se demande toujours, nous, comment et qu'est-ce qui se passe dans votre tête à tous pour vivre une aventure aussi folle, aussi dingue que celle-ci.
C'est vrai que c'est une expérience assez dingue et il faut être assez fou pour le faire. Moi, je sais que je me rappelle, ça faisait 2 ans que j'étais célibataire et il y avait eu le confinement avec le Covid. Et je n'aimais pas du tout les sites de rencontres, donc je commençais à en avoir marre de ne pas trouver mes moitiés. Donc j'avais vraiment envie d'essayer cette expérience en me disant pourquoi pas rencontrer l'amour de cette manière. Ça a marché, on va dire, au début, et puis au bout d'un an et demi, bah, finalement, il y a eu séparation.
Ouais, la vie vous a un peu séparé.
C'est ça, je ne regrette pas l'expérience, en tout cas, de Marie au premier regard, qui fait quand même peur, hein, dès qu'il y a les caméras qui arrivent à la maison pour la première fois. On se dit, oh là là, mais qu'est-ce que je fais?
Tu m'étonnes.
Ça Une fois qu'on est derrière le rideau, avant de se marier, on se dit, mais pourquoi je suis là? En plus, j'ai embarqué ma famille à Gibraltar. Mais qu'est-ce que je fous? Là, on se pose mille et une questions. Et c'est vrai qu'il faut oser. Mais je me suis dit, qui ne tente rien n'a rien.
Et c'était la première année que c'était à Gibraltar, si je me souviens bien.
Oui, ouais, ouais, première année, ouais.
Donc, c'était totalement la surprise pour toi, là.
Ouais, je savais pas du tout où je mettais les pieds.
Alors, beaucoup d'aventures, évidemment, ont suivi ces péripéties. Il y a eu la vie d'après, voilà, il y a eu beaucoup de choses. Et puis, ton histoire personnelle a pris le pas un peu là-dessus quand même. Est-ce que malgré tout, ce que tu as vécu, le fait d'avoir fait cette émission, t'aide aujourd'hui dans tes relations présentes ou futures à beaucoup plus en parler tout de suite, à libérer cette parole?
C'est vrai que le fait d'avoir partagé mon histoire qui est assez atypique à la télé, ça a émis beaucoup de questionnements auprès de personnes qui me connaissent un peu moins, qui me posent beaucoup de questions, qui ont envie de savoir ou qui veulent simplement des conseils. Et je ne pensais pas que ça intéresserait autant. Et je me suis dit, ok, bah, je vais partager ça, je vais donner mes conseils et je vais donner ma propre définition de la résilience. Et quand j'ai vu que les gens étaient vraiment très intéressés par ça, je me suis rendu compte bah, que finalement, bah, ça pouvait aider beaucoup de personnes et ça m'a beaucoup plu parce que de base, je suis infirmière et j'aime aider les gens et si je peux les aider autrement que par un soin, bah, j'adore ça.
Alors moi, c'est ce qui m'a beaucoup marqué dans ton livre, c'est que le livre démarre dans quelque chose de très joyeux puisque tu fêtes Noël en famille, tu es très heureuse de revoir ta sœur parce que vous voyez moins souvent et tout bascule avec un accident de voiture en venant de Noël. La voiture tombe dans le ravin et là, c'est le blackout total et tu commences à raconter un petit peu tout ce que tu vis de l'intérieur à travers un coma artificiel. Et quand on lit le livre, on a tellement l'impression d'être avec toi et de vivre ce drame. C'est assez terrible. Et à la fois, je suis sûr que ça va aider en tout cas des personnes qui traversent peut-être cet orage dans leur vie. Hein.
J'espère que ça peut aider des personnes qui n'ont peut-être plus confiance en eux ou qui baissent les bras. Je pense que c'est pas parce qu'on nous condamne qu'on est forcément condamné à 100%. Parfois, oui, effectivement, on peut avoir des maladies foudroyantes, mais moi, je parle surtout du handicap. On peut toujours réussir à accomplir quelque chose, si ce n'est, par exemple, faire du handisport. Il y a du sport qui peut être pratiqué en tant qu'handicapé. On peut quand même réaliser ses rêves à sa hauteur.
Oui, puis le livre raconte aussi cette résilience où à un moment donné, tu acceptes. C'est l'acceptation aussi de ce qui t'arrive qui a été quand même très difficile parce que tu crois que ta vie est finie, parce que tu crois que tu ne pourras plus jamais rien faire, parce que le monde s'effondre autour de toi dans ce genre de situation. Et là, bah, tu racontes la rééducation, tu racontes toutes les personnes qui t'ont entouré, qui étaient avec toi. Tu expliques que des fois, bah, un petit rien te faisait beaucoup de bien. Et c'est ça aussi qui est important. C'est des petites choses des fois.
Oui, à travers ce livre, j'ai vraiment voulu faire comprendre au lecteur que on se rend pas compte, mais dans la vie, avoir des moments de bonheur avec sa famille et ses amis, il faut absolument en être conscient. Prendre une douche chaude, c'est pas donné à tout le monde. Il y a des SDF qui n'ont pas de douche, qui peuvent pas se doucher. Nous, les personnes qui sommes à l'hôpital, dans un lit d'hôpital, on ne peut pas se doucher. Et je rêvais, quand j'étais dans un lit d'hôpital, de pouvoir sentir les écoulements de l'eau sur mon corps ou de pouvoir nager dans une piscine. Et je veux faire comprendre au lecteur que chaque petit moment de bonheur, il faut savoir en être conscient. Manger son plat préféré, il faut être conscient que ce moment-là, eh ben, il faut être gratifiant de pouvoir l'avoir. Parce qu'il y a du monde qui ne l'ont plus aujourd'hui, que ce soit des personnes qui sont dans la maladie, des personnes qui sont en train de mourir, des personnes qui sont à l'hôpital. On a l'habitude de se plaindre, de parler du négatif quand on vit quelque chose où on n'est pas d'accord, mais on parle pas assez du positif et ce qu'on vit de bien dans notre vie. Et je pense que c'est parce qu'on a perdu la conscience de se dire que ce moment-là est précieux.
Alicia, t'as fait de la rééducation pendant combien de temps ?
Pendant 3 mois et demi. Là, je parle de l'hospitalisation parce qu'après, j'ai fait de la rééducation encore jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais de la kiné, mais à vie. Je dois faire de la rééducation avec un kiné une fois par semaine. Mais c'est vrai que non-stop en hospitalisation, c'était pendant 3 mois et demi.
Alicia, le livre donc sort chez Amazon hein, pour le moment, mais disponible aussi. N'hésitez pas peut-être à le réclamer auprès de vos libraires qui pourront se rapprocher de toi en tout cas pour se le procurer. Le livre s'appelle Respire encore, le souffle de la résilience. Vous cherchez sur Amazon Alicia Mahé pour pouvoir découvrir en tout cas ce bel ouvrage que vous pouvez commander évidemment en ligne pour l'instant. Hein.
Oui, exactement. Pour l'instant, c'est en ligne, mais comme je me suis auto-édité, il n'appartient pas le livre à Amazon, donc il pourra être mis en vente dans des librairies, et, notamment peut-être pourquoi pas la Fnac, Cultura. C'est un projet que j'aimerais avoir et qui est en attente.
Alicia, quel conseil tu donnerais justement aux célibataires qui auraient envie de participer peut-être à la prochaine saison de Marie au premier regard? Parce qu'on le sait, le casting de la prochaine saison est déjà un peu en train de se dessiner alors que celle-ci commence tout juste en diffusion.
Hein. Voilà, exactement. Le casting de la saison 10 de l'année prochaine est en cours. On ne connaît pas encore les candidats de l'année prochaine. En tout cas, on connaît ceux de cette année. On va bientôt les voir à la télé. Et le conseil que je pourrais donner, si vous avez envie de faire l'émission, si voilà, on ne voit pas beaucoup de couples naissants qui grandissent de manière indéterminée encore aujourd'hui, je souhaite vous dire, au mieux, vous trouvez l'amour et au moins bien, vous n'avez rien à perdre.
Et en plus, vous vivez une expérience totalement hallucinante et que nous, on vit par écran interposé. Exactement. Marie au premier regard, saison 9, c'est ce soir à 21h10 sur M6.
Et puis, n'oubliez pas, on a qu'une vie.
Exactement. Et puis, n'hésitez pas aussi, bien sûr, à aller vous procurer le livre d'Alicia Mahé, Respire encore, le souffle de la résilience, qu'on vous conseille, évidemment. Merci, ma chère Alicia. On se dit à très, très bientôt.
Merci beaucoup. À très vite.
Et on se quitte avec la bande annonce.
You want to marry Tremont?
No.
Il y a des flashbacks, en fait, qui reviennent.
You want to marry Tremont?
No.
Clément,
ça va bien.
Si on vous a fait venir aujourd'hui, Clément, c'est pour vous annoncer qu'on a trouvé un nouvel homme qui est compatible avec vous. Vous allez vous marier.
Je veux pas revivre ce nom que j'ai vécu.
Marié au premier regard, nouvelle saison, dès le lundi 3 mars sur M6.
Allez, ne bougez pas, dans un instant, on parle de Olympe, on va parler également de la mini-série L'Intruse de Joseph et notre deuxième coup de cœur ciné dans la cuisine d'Anne Guyenne. À tout de suite.
Bouge pas, chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite. Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Qu'il te reste une flamme calée au fond de toi.
Tu effaceras les larmes qui mouillent tes yeux parfois. Tant qu'il te reste un rire vivant sur ton visage, tu pourras toujours écrire des milliers d'autres pages.
Et si tu sens que le jour vient, que tu peux revivre demain,
tu seras la seule étoile pour voir venir
un horizon pour ton avenir.
Il te reste les mots que t'as bien voulu garder. Tu traverseras le mur tôt, la tête baissée, les yeux fermés. Tant qu'il te reste l'amour que tu reçois volontiers.
C'est de l'espoir tous les jours que tu voudras redonner.
Et si tu sens que le jour vient, que tu peux revivre demain, tu seras la seule étoile pour voir venir un horizon pour ton avenir. Et si tu sens que le jour,
pour que tu sois, on veillera sur toi.
si tu sens que le jour vient.
La télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chute On Écoute la Télé. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé cette semaine est consacré à Olympe, une femme dans la révolution, un film co-réalisé par Mathieu Busson et Julie Gaillet qui sont avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. C'est une femme peut-être un peu méconnue pour certains et c'est une femme qui a marqué l'histoire du féminisme un peu durant la révolution. C'est un parcours hors norme qu'on va découvrir et que tu nous fais découvrir, Julie.
Oui, alors ceux qui ont suivi les JO l'été dernier se souviennent de ces statues qui sortaient de l'eau, et la première, Olympe de Gouges. Et malgré tout, certains ne la connaissent pas parce que on n'a pas raconté son histoire pendant des siècles. Un peu plus récemment, puisqu'elle étudie au bac français, elle l'a été pendant 2 ans, et elle est encore cette année au bac français. Donc voilà, ceux qui veulent la regarder le film en famille pourront travailler en même temps. Mais l'idée de raconter nos héroïnes, les femmes dans l'histoire, celles dont on n'a malheureusement pas l'image, on n'a pas forcément, on connaît pas tout à fait, on se dit tiens, mais qui elle est ? C'était important de faire un film sur Olympe de Gouges.
Alors, on va pas tout dire, évidemment, puisque vous allez découvrir son histoire dans le film, mais comment vous êtes répartis un petit peu les tâches déjà tous les deux? Parce que quand on réalise à quatre, il faut dire que Julie était quasiment sur tous les plans, en plus. Donc, j'imagine la difficulté que c'est de réaliser d'un côté et d'être sur tous les plans en même temps. Heureusement que Mathieu était là pour aider un peu aussi, quand même, du coup.
Déjà, on avait déjà travaillé ensemble, donc on se connaît quand même pas mal. On a fait 3 documentaires ensemble, on a fait un livre ensemble, et donc, à la fois, on est sans méthode, c'est un peu ce qui nous caractérise, et à la fois, on a quand même des principes de confiance, de respect des autres qui font qu'on avance assez bien. Il n'y a pas une bonne manière de faire, mais oui, Julie était de tous les plans, de toutes les séquences, et puis surtout, on est dans du film d'époque, donc il y a beaucoup de préparation de coiffure, de costume, de changement de costume, donc elle ne pouvait pas être sur le plateau en permanence, et donc voilà, on s'est répartis les tâches, on a préparé ensemble, et on a monté notre équipe ensemble, on a choisi les comédiens ensemble, et du coup, le film s'est fait ensemble, enfin, c'est aussi simple que ça au final, quoi.
Alors, on se retrouve effectivement à Paris en juillet 93, 4 ans après la prise de la Bastille. Paris est à feu et à sang, il y a des scènes avec énormément de figurants autour de vous. Et puis Olympe, cette femme qui va tout tenter et qui va se battre jusqu'au bout pour le droit des femmes à cette époque-là. C'est quelque chose qui fait encore tellement résonance à notre époque aujourd'hui. C'est un film extrêmement contemporain qui aujourd'hui ne se dément pas finalement.
Alors, on a essayé de le rendre contemporain parce que en réalité, elle était visionnaire, mais elle était humaniste. Je dirais pas féministe, c'est vraiment humaniste. Tout simplement, elle a commencé son engagement au travers de son théâtre, parce qu'elle a été auteure de théâtre et elle écrivait. Elle était contre, en fait, l'esclavage dans les colonies. Elle avait monté cette pièce. Elle faisait partie des Amis des Noirs. C'était contre les injustices, en fait.
Elle se battait pour plein de causes différentes, oui, c'est ça aussi.
Mais pour le peuple, pour qu'ils aient du pain, pour avoir une caisse patriotique, c'est-à-dire les premiers impôts, pour aussi, voilà, tout type d'injustice. Et déjà, on connaît pas, n'existait pas le mot féministe. Donc c'est pas du féminisme, c'est de l'humanisme et contre les inégalités et l'envie de plus d'égalité. Donc la révolution arrive à cette période-là, donc elle va s'engager dans la politique et avoir des idées vraiment novatrice comme le divorce ou un contrat de mariage pour les enfants nés hors mariage, sur des maisons propres pour que les femmes arrêtent de mourir en couche. Elle était déjà hygiéniste, enfin des ateliers pour ceux qui n'avaient pas d'emploi, donc on va dire les chômeurs de l'époque. Elle avait 1000 idées.
Et elle va en payer le lourd tribut quelque part quand même.
Non, mais c'est surtout cette indépendance, c'est-à-dire qu'elle part de Montauban. C'est vraiment quelqu'un qui vient à Paris avec son fils. Elle est jeune veuve. Elle décide de ne jamais se remarier et d'être.
Elle a été mariée de force.
Non, elle a
été en quelque sorte. Elle a été mariée un peu arrangée.
À l'époque, on se mariait comme ça. On se mariait, il fallait se marier, elle se marie.
Quand on voit ça aujourd'hui, c'est dingue.
Au bout d'un an, son mari meurt et elle a un enfant. Et elle décide de ne jamais se remarier et d'être libre. Et à cette époque, bah, c'était forcément une femme qui ne se mariait pas, qui n'était pas mariée, était une femme facile, une prostituée. Donc on a souvent dit ça d'elle, alors que pas du tout. Elle écrivait, elle voulait écrire, elle parlait l'occitan, elle a réappris en arrivant à Paris le français. Elle était autodidacte, mais elle allait suivre des cours, elle était passionnée, elle avait cette envie d'apprendre. Et c'était l'année, voilà, c'est cette époque des Lumières qui amène à la Révolution française. Et avec toutes ces idées foisonnantes, cette indépendance, toutes les idées qu'elle a eues, on ne peut pas imaginer qu'on ait pu l'oublier. Comment est-ce possible? Donc c'était important de restaurer cette histoire. Mais bon, vous allez le voir dans le film. Donc,
un parcours dingue. Vous allez voir, franchement, c'est vraiment un parcours totalement hallucinant que vous allez découvrir de cette femme visionnaire. C'est vrai que c'est bon mot, je pense. Hein.
Ah oui, et alors, comme on connaît peu, on résume à féministe, mais ce n'est pas féministe. C'est vraiment, quand je dis que c'est la première... Elle a parlé de caisse patriotique. Elle a poussé les femmes pendant la Révolution à financer, à donner... Elles avaient des clubs de femmes, elles avaient des idées. Elles voulaient aller se battre aussi sur le front comme les hommes. Elles disaient, mais puisque les hommes... On disait des femmes qu'elles montaient à l'échafaud, mais elles ne pouvaient pas monter à la tribune. Elles n'avaient pas le droit de vote. Il était question d'une éducation nationale. Elles n'avaient pas le droit à l'éducation. On ne parlait pas de l'éducation pour les femmes. Donc elles disaient, mais cette déclaration des droits de l'homme oublie quand même la moitié de la France, les femmes. Donc oui, elle s'est battue pour les femmes, mais à la base, c'est vraiment quelqu'un qui est une vraie révolutionnaire avec mille idées et en même temps...
elle se bat pour son fils aussi.
Oui, et qui ne veut pas non plus la mort du roi, parce qu'elle dit que... Enfin bon, vous verrez le film.
Exactement.
Mais c'est beaucoup plus complexe que simplement de la définir par féministe. Mais quand on voit ça, on se dit c'est fou, parce que le droit de vote, elle se battait déjà pour ça au moment de la Révolution française. Et il a fallu attendre après la Seconde Guerre mondiale pour que ça passe. Donc autant vous dire qu'il y a eu quand même des siècles et qu'on ait oublié cette figure parce qu'on a pu dire qu'elle était une femme facile, c'est une injustice folle. Donc il fallait restaurer cette image. Donc c'était une grosse pression pour nous, pour moi et pour Mathieu, de se dire ben là on a un enjeu important, il faut que le film soit réussi. Et moi j'avais l'impression qu'elle était là avec nous, hein, mais de me dire voilà, ce serait bien de la venger ou en tout cas maintenant il faut restaurer son histoire.
Oui, et lui redonner ses lettres de noblesse. Comme je dirais Mathieu, il y a des joutes verbales justement entre Julie et le comédien qui joue Robespierre. Ouais. Pour ça, on parle aussi évidemment du féminisme parce que il y a des paroles de Robespierre qui sont totalement hallucinantes envers justement cette femme. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait un certain parler. Comment on se prépare justement à ça aussi?
Ça, c'est très compliqué. On a vraiment oscillé. On était sur un fil en permanence. On voulait pas un langage moderne, contemporain, wesh wesh, gros ma gueule. Et à la
bah
fois,
c'est ça.
Voilà. Et à la fois, il fallait respecter l'époque. Il fallait pas non plus forcer le moderne. Donc, il y a des phrases de Robespierre qui sont des vraies phrases de Robespierre. Ils sont pas forcément dans ce contexte-là, mais des mots de Robespierre qu'on a réutilisés. Il y a beaucoup de mots d'Olympe qu'on a réutilisés, qui sont ces vrais mots écrits. Et on oscille entre des dialogues, des scènes jouées et ressortir des vrais mots de l'époque. Donc c'est sur un film, mais c'est comme la modernité, ce que vous disiez, c'est-à-dire que sans spoiler le film, il y a une bonne partie qui se passe en prison, et les prisons, elles sont dramatiquement universelles, quoi. Les vraies prisons d'abord, et puis les prisons de femmes, l'enfermement des femmes, il est contemporain encore aujourd'hui partout dans le monde, que ce soit dans des pays où elles sont mises plus bas que terre, ou donc.
C'est pour ça que je disais que ça résonne énormément. Il y a des paroles dans le film, il y a des dialogues qui résonnent encore énormément aujourd'hui.
Oui, oui, complètement. Mais c'est pour ça que c'était pas... Malheureusement, c'est pas si compliqué que ça de ramener de la modernité parce que c'est encore sous nos yeux aujourd'hui. Tout ce qu'elle dit peut encore s'entendre et être défendu, quoi.
Une scène qui a été plus difficile qu'une autre?
Non, on a beaucoup préparé. Après, vous disiez les figurants, on en a eu beaucoup. On n'en a pas eu tant que ça, donc il a fallu trouver des moyens, en fait. Il faut adapter au budget. On n'est pas malheureux, on a eu un bon budget,
mais on est sur un budget télé, il faut quand même le dire, hein, malgré tout.
Exactement, on est sur un budget télé, donc il faut être parfois inventif pour trouver des solutions, pour faire croire qu'il y a 300 figurants alors qu'ils sont 15, quoi. Et on y arrive, et c'est joyeux, enfin, ça
c'est réussi.
Ça pousse à un peu de créativité avec l'équipe, avec tout le monde. Avec le chef-op, avec la déco, avec tout le monde, de trouver des solutions pour qu'on ne voit pas le manque.
Dernière question, Julie. Premier résultat, film monté, terminé. Qu'est-ce qu'on se dit? On ressent une émotion particulière. On est heureux justement de pouvoir faire découvrir ce film, de le livrer au public.
Bah oui, très ému même, très ému. La première projection, on avait un peu la boule au ventre, mais on a voulu la faire justement avec tous ces figurants dont vous avez parlé et toutes ces solutions. Et on avait tourné en région Occitanie, donc on est allé là-bas, on a enregistré la musique à Toulouse avec la maîtrise de Toulouse. Donc c'était important d'être dans la région Occitanie, à Montauban. On a fait cette première projection et j'ai eu un trac fou. Et je suis sortie assez heureuse parce que les gens étaient émus et c'était une projection inoubliable pour moi. Comme on a en plus fait une petite exposition photo, on a photographié toutes les femmes du film. C'était joyeux parce qu'elles étaient là. J'ai l'impression que c'était une aventure humaine en fait. Et je crois que c'est comme ça qu'on fonctionne avec Mathieu depuis le début dans notre travail commun. On a envie d'être entouré de gens qu'on aime et c'est ce qui s'est ressenti. Et l'émotion était là et tout le monde disait « Ah, mais c'est incroyable !» Donc après, évidemment, on peut pas tout dire dans un film. Donc j'espère que ça donnera envie d'aller lire ces textes, d'en savoir plus sur elles. Là, on a travaillé sur la publication du scénario chez Flammarion avec des notes d'une historienne. Et ça, c'est chouette parce qu'il y aura des notes de tout ce qu'on n'a pas pu mettre, parce qu'on peut pas tout mettre, même si on a, comme le disait Mathieu, pris des longs textes et des choses dans le film. Vous entendrez la voix d'Olympe, vraiment, ses propres mots. Moi, je suis très, très, très émue.
C'est une vraie mission de service public que vous allez découvrir justement, c'est vraiment un film taillé sur mesure, Olympe, une femme dans la révolution. Venez découvrir en tout cas à la télévision sur France 2 ce parcours hors norme justement de cette femme qui a fait peut-être changer les choses en tout cas à sa manière. Merci Julie, merci Mathieu.
Merci.
Merci.
Et on se quitte tout de suite avec la bande-annonce.
Vestiaire a encore ajourné la déclaration des droits des femmes. C'est la sixième fois. Un jour c'est la constitution, un autre c'est la guerre contre l'Autriche. C'est simple, il y a toujours quelque chose de plus important que le droit des femmes.
Tu devrais te réjouir. L'Assemblée a enfin autorisé le divorce.
Me réjouir, alors que le roi est emprisonné, que l'Assemblée n'a plus de poids, que seul le gouvernement révolutionnaire est à la manœuvre. Me réjouir alors qu'ils ont organisé le massacre de plus d'un millier de personnes sur le champ de Mars. Je suis sûre que Robespierre est derrière ça.
Personne n'en sait rien. Madame Roland est persuadée que c'est Danton. Certains accusent Marat, d'autres les Girondins, les Montagnards. Chacun rejette la responsabilité sur les autres. La vérité, c'est que personne n'a donné l'ordre de ces tueries.
C'est donc que les hommes sont tous devenus fous. Et tu voudrais pour cela que je me réjouisse.
Notre coup de cœur télé est consacré à la mini-série L'Intruse qui débarque sur France 2. On va pouvoir découvrir cette toute nouvelle fiction inédite avec notamment la réalisatrice qui est avec nous, Charlée Monsarrat. Bonjour Charlée.
Bonjour.
Et à qui l'on doit notamment Scam ou encore des épisodes de Toulouse-Lautrec d'ailleurs, chère Charlée. Et on aime beaucoup d'ailleurs votre travail, bravo pour ces séries. On a également l'auteur et créatrice Nathalie Abdelnour qui est avec nous. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Et puis vous l'avez peut-être vu récemment dans Follow, série démente pour le coup, avec notamment Marie Colombe, c'est Lucie Fajdi qui est avec nous. Bonjour Lucie.
Bonjour.
Une habituée de l'émission aussi qu'on aime beaucoup et qu'on adore recevoir, Mélanie Douté. Bonjour Mélanie.
C'est gentil, bonjour.
Merci d'être là toutes les quatre. On va parler de cette série qui va raconter un peu, alors pas un affrontement, mais en tout cas une rencontre entre deux personnes, l'histoire de Paula, que tu joues, Mélanie, qui a 40 ans, qui arrive au bout de son congé maternité. Allez, soyons honnêtes. Et puis qui va recruter Tess pour l'aider, une jeune fille au pair, mais tout va pas se passer comme prévu. Évidemment, autrement, ça serait pas marrant, ça ferait pas une fiction.
Oui, tout va pas se passer comme prévu, mais en fait, elle y met toute sa bonne volonté. Enfin, on nous y met toute notre bonne volonté, mais en effet, il y a quelque chose que je ne sais pas et que je vais avoir du mal à découvrir.
Oui, parce qu'il faut dire que le personnage de Tess a l'air de rester énormément de secrets.
Oui, cependant, Tess vient avec toutes les bonnes intentions du monde. Et c'est lorsque Paula, Mélanie Douté, a un moment, un doute sur Tess, que ça va un peu partir en cacahuète, quoi.
Et c'est ce qu'on va voir. Qui est l'instigatrice un petit peu du projet, Nathalie, j'imagine, créatrice et auteure. Comment est venue l'idée, en tout cas?
Alors, l'idée est venue, en fait, j'ai trois enfants. Et du coup, je me suis dit que ça serait intéressant de parler de la maternité, du postpartum, car moi-même, j'ai vécu les recrutements de nounous et je me suis dit que c'était un milieu une arène qu'on n'avait pas encore vue. Et c'est pour ça que j'avais envie d'aller dans ces thématiques-là, de traiter ces thématiques-là.
Et il est vrai qu'un recrutement de nounous pour une jeune maman, c'est toujours, je pense, la pire des situations et la pire angoisse, hein.
Tout à fait, parce qu'en fait, on laisse la personne la plus importante pour nous aux mains de quelqu'un qu'on vient de rencontrer. Et donc, c'est très angoissant, en fait, quand on le laisse dans sa maison et que c'est la personne la plus importante pour nous et qu'on part travailler. Donc, c'est ça vraiment que j'avais envie de montrer, cette angoisse de laisser son enfant aux mains de quelqu'un qui peut être dangereux. Voilà.
Et Charlie est arrivée évidemment dans cette aventure en tant que réalisatrice. Qu'est-ce qui vous a plu en premier, Charlie ?
L'histoire. Enfin, c'est un peu bateau de dire ça, mais c'était vraiment le thriller d'intrusion, le thriller psychologique et l'idée de quelqu'un qui s'immisce dans l'intimité de quelqu'un d'autre. Moi, c'est quelque chose qui me terrorise personnellement. Donc, tout ce qui concerne l'intime. Donc, voilà, c'est ça qui m'a intéressée en premier.
Parce que c'est vrai que du coup, la façon dont c'est fait des fois dans ces films, on a presque l'impression, nous, téléspectateurs, d'être voyeurs de certaines situations. Et ça, c'est un peu le talent de la réalisatrice, et de faire immerger un peu le téléspectateur dans l'histoire.
Peut-être parce que j'ai très très peur des voyeurs, justement.
Bon, voilà, j'espère en tout cas que ça a exorcisé une certaine peur.
Tout à fait. Non, mais c'était hyper intéressant à faire et justement à travailler là-dessus, quoi.
Et quand on imagine, qu'on écrit, qu'on prépare une série comme celle-ci, Nathalie, il faut évidemment s'entourer de comédiennes absolument dingues. Et qu'est-ce qui, du coup, a fait que ça soit Lucie et Mélanie ?
Mélanie avait cette fragilité que j'adore dans tous ses films. Et c'était la comédienne parfaite pour incarner cette mère de famille qui fait tout pour garder son foyer et qui se bat et qui est vraiment dans l'émotion et dans la sensibilité. Et Lucie, elle a cette apparence de jeune fille douce et parfaite et qui cache bien son jeu. Et les deux ensemble, c'est super en fait. On a vraiment deux personnages, chacune qui défendent le sujet. Et vraiment, c'était super d'avoir ces deux comédiennes. C'était le rêve d'un scénariste d'avoir ces deux comédiennes qui incarnent ces personnages.
Le rêve d'un scénariste d'avoir deux comédiennes comme ça qui incarnent des personnages, c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire.
Ah oui, surtout par l'auteur, l'autrice. Nous sommes très fiers, je pense, non, Lucie ?
Oui, on est très fiers, tout à fait.
Merci. Bon, Paula, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Comment tu nous la vendrais, toi, Mélanie ?
Alors, comment je la vendrais ? Mais en fait, Paula, tu parlais de fragilité, mais je trouve surtout que c'est un personnage qui a un ressort incroyable. Elle va se découvrir elle-même une force, et parce que justement, elle a touché le fond, elle est allée dans les tréfonds du manque de confiance, de la fragilité, de la remise en question. Je pense qu'elle ne se connaissait pas comme ça, elle était totalement isolée. Il y a un ressort en elle, et il y a un instinct maternel qui va lui donner une puissance, mais digne de la mythologie grecque, quoi. Elle va tout dépoter. Elle va tout déboîter, elle va surtout mener à bout, je vais pas dire une enquête parce que c'est pas vraiment une enquête, mais elle va vraiment essayer de comprendre. En fait, ce que j'aime beaucoup surtout, c'est que c'est pas une confrontation entre deux femmes. Il n'y a pas de rivalité entre ces deux femmes. Ces deux femmes qui ont des parcours assez similaires, inversés. Il y a un jeu de miroir entre nous deux, et c'est vraiment deux personnes qui essayent de se comprendre. Voilà. Et j'aime la façon dont je vais rencontrer le personnage de Tess sans elle.
Et a-t-elle raison effectivement de se méfier ? Devient-elle folle ? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Tess est bien sous tout rapport? C'est ce qu'on découvrira évidemment au fur et à mesure de cette mini-série. Comment, Lucie, toi tu vois Tess, du coup, justement?
Au premier abord, c'est un personnage qui paraît très fort, parfait sous tous les traits, mais au fur et à mesure de la série, ça va se déconstruire quand le personnage de Paula aura des doutes sur elle. Et moi, ce qui m'a intéressé dans le personnage, en tout cas ce que je trouve intéressant dans la série, c'est que en fait, le personnage de Tess va essayer de retrouver l'enfance qu'elle a jamais eue, qu'on lui a volée. Et c'est ce que va découvrir, Paula durant son enquête. Voilà.
On va découvrir en tout cas l'intruse. C'est votre toute nouvelle fiction inédite à découvrir. On va écouter la bande-annonce et on revient juste après avec notre super équipe aujourd'hui pour la suite de notre spécial. On écoute.
Avec les enfants, elle est comment ?
Ah elle est super, il l'adore.
Donc si je comprends bien, il n'y a qu'avec vous qu'il y a un problème.
Vous cherchez quelque chose ?
Dis donc, t'as bossé dans le bureau hier soir ?
Non, pourquoi ?
C'est bizarre, c'était ouvert.
Enfin, c'est n'importe quoi. C'est toi qui as voulu qu'on l'embauche.
Inédit, l'intruse s'invite mercredi 5 mars à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv.
Allez, première soirée de l'intruse cette semaine sur France 2. Nouvelle mini-série à découvrir. On va découvrir évidemment cette fiction réalisée par Charlie Monsara qui est avec nous. On a Nathalie également, auteure et créatrice. Adèle Nour, que je n'écorche pas le nom, Lucie Fagelé et Mélanie Doutet sont avec nous. Donc on a parlé un petit peu évidemment de comment s'est créée un peu cette histoire. Malgré tout, alors moi j'ai vu que le premier épisode, je vais découvrir le deuxième en même temps que les téléspectateurs, donc je n'ai pas vu la fin. Mais est-ce qu'on peut imaginer une fin ouverte ou pas ? ou est-ce que c'est vraiment fermé et que c'est une mini-série où on va avoir un peu toutes les réponses aux questions qu'on peut se poser, ou est-ce que cette fin est un peu ouverte et pourrait déboucher, si le succès est là en tout cas, et c'est ce qu'on vous espère, sur une suite?
Non, la série, elle a été pensée et écrite comme une série bouclée avec une fin.
On aura pas mal de réponses aux questions qu'on peut se poser.
Oui, on aura effectivement des réponses, mais c'est pas une fin ouverte. Et Tess ne reviendra pas, a priori, en saison 2.
Se venger. Se venger. On ne sait jamais, effectivement, ce qui peut arriver. Charlie, est-ce qu'il y a un souvenir particulier à nous raconter de tournage, ou une scène particulière qui soit à tourner en fou rire, ou où il s'est passé un truc, peut-être, à nous raconter, qui peut être un peu drôle?
En scène drôle, je ne sais pas s'il y avait vraiment des scènes drôles. On rigolait, en tout cas, les scènes n'étaient pas drôles, mais on rigolait beaucoup en dehors du plateau.
Ça, c'est important, justement, quand on tourne quelque chose d'un peu lourd, des fois, c'est important de décompresser.
Complètement. Et non, ce qui était assez chouette et doux, c'était de tourner avec des enfants. Hein. C'est une série où quand même on parle d'une nounou et d'une mère de famille. Donc non, on a tourné avec des enfants, on a tourné avec deux enfants, Lisandro et Leandro, à qui on fait des gros bisous, qui étaient hyper chouettes. Que dire
non, ça va, on arrive à gérer le nombre d'heures limite, à pas dépasser justement sur un plateau pour des enfants de stage.
Oui, bon, on s'adapte à eux en fait, hein. On crée en fonction d'eux, et puis c'était chouette de les voir et créer des liens avec Mélanie, et créer des liens avec Lucie et avec l'équipe. Donc non, c'était les moments un peu doux du plateau.
Nathalie, quand les premiers rushs arrivent et qu'on voit justement ce qu'on a écrit prendre vie sous les traits de deux comédiennes, on se dit quoi au fur et à mesure ?
Ben, on se dit que qu'on est ravis de voir. L'écriture, c'est long en fait, c'est 2 ans d'écriture, et c'est vrai que quand on voit enfin les personnages être incarnés par des comédiennes, c'est super, et surtout des ces merveilleuses comédiennes, et par Shirley qui a fait un super boulot.
Et qui donne vie à notre stylo, c'est le cas de le dire.
Oui, tout à fait, et qui a sublimé le scénario même, avec des scènes qui allaient dans le genre, voilà, où même moi à l'écriture, je pensais pas aller aussi loin, et que Shirley a permis de réaliser, et c'est un énorme plaisir de voir les rushs de cette série-là en particulier, c'était très agréable.
Mélanie, un souvenir ?
Une séquence que Shirley a décidé de tourner en plan séquence, et qui était un peu pour nous, je pense, hein, un côté un peu western, quoi. Tout d'un coup, on était face à face, et mon personnage ose enfin sortir de ses gonds. Et dans l'écriture, il y avait vraiment quelque chose d'assez... C'est une scène muette. Et la façon dont on l'a mise en place, j'ai vraiment eu le sentiment que, voilà, on tournait un western, et ça se finit par un geste assez brutal, mais qui se fait avec beaucoup de c'est très tenu, voilà, et c'était à l'image un peu de la façon dont Shirley a mis en place ce plan séquence. On était très concentrés, et c'était tellement libérateur de faire ce geste que vous allez découvrir, je pense, ce soir ou la semaine prochaine. Ou, mais voilà, il y avait un truc hyper libérateur, et ça nous a fait du, enfin, à mon personnage, ça lui a fait beaucoup de bien. Toi, je ne sais pas.
Moi, ça m'a fait du bien pour toi.
Et voilà. Non, mais évidemment, c'est lié au plateau. Mais on a plein de très bons souvenirs. On a tourné à Bordeaux, qui est une ville super agréable. L'équipe était merveilleuse.
On est toujours bien en Nouvelle-Aquitaine.
Non, mais ce qui était chouette, finalement, là, en parlant, parce qu'effectivement, le tournage est déjà un petit peu loin, hein, donc j'essaye de me remettre dedans. Mais ce que j'ai préféré, c'était les séquences où on était tous ensemble, là, c'est-à-dire la séquence d'ouverture ou la séquence de fin. Où il y avait, enfin, la séquence de la fin de l'épisode 2, là, le plan séquence aussi, qu'on a fait de nuit, qu'on a tourné jusqu'à 5h du matin. Comme c'était un plan séquence, il fallait que tout marche. Et il y avait aussi bien Mélanie, Lucie, Eric, les enfants, Léonie, Clément. Enfin, finalement, on était tous dans le même plan. Et ça reste quand même les bons souvenirs de où on est tous ensemble, quoi.
Ouais, les plans séquences, ils sont incroyables, Shirley, quand même. Il y a du cinoche, quoi, là-dedans. C'est vrai.
Ouais, non, mais il y a un très, très joli travail. C'est vrai. Je lui disais en début, mais j'aime beaucoup son travail sur toutes les séries que Charlie a pu réaliser. Lucie, un souvenir ?
Je rejoins un peu Mélanie et Shirley sur en fait ces plans séquences, où c'est vrai que du coup j'avais déjà travaillé avec Shirley avant, donc dans une série qui s'appelle Scam, et c'est vrai que les plans séquences, c'est un peu sa spéciale, et en vrai moi c'est ce que je préfère tourner, et là on en a tourné quand même pas mal. C'est parce qu'il y a vraiment cette sensation où en fait il faut que tout le monde soit là au bon endroit au bon moment, sinon ça capote et il faut recommencer. Du coup il y a vraiment cette sensation de faire groupe et faire un pour arriver à aller au bout de la scène, donc ce soit aussi bien à la technique que au jeu. Et ouais, moi je crois que c'est ce que j'ai préféré tourner pendant ce tournage. Ouais,
je crois qu'on vous a presque tout dit. mais presque, puisque maintenant on va vous laisser découvrir en tout cas l'intruse cette semaine sur France 2 avec les deux premiers épisodes, et vous aurez la suite la semaine prochaine, mais déjà vous l'aurez aussi en intégralité sur France.tv pour ceux qui ne peuvent pas attendre. Voilà, parce que je suis sûr qu'à la fin du deuxième, le suspense va être insoutenable. Merci à toutes les quatre d'avoir été avec nous pour nous présenter cette mini-série. Merci Mélanie.
Merci beaucoup, merci.
Merci Lucie.
Merci à vous.
Merci Nathalie.
Merci, pardon, je voulais juste rajouter que cette série, je ne l'ai pas écrite seule, je l'ai écrite avec une formidable scénariste qui s'appelle Nathalie Saujon, qui n'est pas là aujourd'hui, mais voilà, je voulais citer quand même son nom.
Toujours important. Et Charlie, merci beaucoup aussi.
Merci beaucoup.
Et à bientôt.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Et notre coup de cœur télé est consacré à Joseph qui débarque cette semaine sur TF1 avec une grande spéciale aujourd'hui pour fêter le début de cette nouvelle série inédite. On a le co-réalisateur et co-créateur de cette série, Lucien Jean-Baptiste, qui est avec nous. Bonjour mon cher Lucien.
Bonjour, bonjour à tous.
Quel plaisir de te retrouver.
Ah, je suis toujours très heureux quand je vous vois.
Avec cette belle comédie policière qu'on va vous raconter dans un instant, et tu l'as co-écrit avec Sébastien Mounier qui est avec nous et co-créé. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Merci d'être là aussi. Et puis on a un des coproducteurs qui est avec nous, la maison Nolita. On n'en finit plus parce que on est sur tous vos projets. Vous devez en avoir marre de nous, mais Mathieu Lajon est avec nous quand même.
C'est un plaisir, sachant qu'on a coproduit effectivement avec Zamba, donc Aurélie Nollet, et puis mes associés Romain Rousseau et Maxime Delaunay.
Évidemment, les copains. Et puis Dunia Kosinski qui va nous rejoindre aussi dans un instant, mais qui est déjà pas loin justement. Bonjour Dunia.
Bonjour.
Et qui va nous parler d'Adèle dans quelques instants aussi. Alors ce que j'ai adoré évidemment dans Joseph, c'est qu'on peut pas s'empêcher de penser à Colombo, mais à un Colombo un peu décalé.
Oui, décalé qu'atome. Oh, c'est un Colombo.
Même pas à côté de ses pompes, non. Complètement bien dans ses pompes.
Non, c'est vrai que Colombo, alors je tiens à le dire tout de suite et on a insisté là-dessus, on n'a pas essayé d'être Colombo, c'est impossible. Il y a des gens qui s'amusent à essayer de refaire des grands classiques. Non, on a pris l'ADN de Colombo, on a pris les ingrédients qui nous intéressaient dans Colombo, c'est-à-dire déjà en commençant par l'intrigue inversée, c'est-à-dire qu'on voit le meurtre au départ, et puis tout ce qui nous a plu avec Seb, c'est David contre Goliath, c'est ces petits mecs. Et c'est ce qu'on retrouve souvent dans nos créations, c'est-à-dire c'est ces petits bonhommes qui au départ sont inoffensifs et puis qui arrivent à faire des grandes choses. Joseph a ça d'équivalent à Colombo, c'est-à-dire quand il arrive, on le prend toujours pour le mec inoffensif, pas dangereux, etc. Et il a l'art de gagner ses parties d'échecs face à des grands joueurs. Voilà.
On a toujours l'impression qu'il va taper à côté. En fait, il est toujours en plein dans le mille.
Ah, complètement plein dans le mille. Ah oui, et puis je voulais dire aussi une chose. Par exemple, on va pas retrouver la 403, mais il a un petit scooter d'époque. Voilà. Voilà, on s'est beaucoup amusé avec ça, c'était quelque chose qui est assez drôle finalement à écrire, même si on parle de meurtre, etc. Mais nous, ce qui nous intéressait surtout au-delà du meurtre, c'est les thématiques aussi qu'il y a autour de ça, et puis évidemment la partie d'échec entre l'assassin et le personnage de Joseph.
Ouais, avec une écriture très fine, hein, Sébastien.
Ben merci. Oui, en fait, on a la chance de travailler depuis longtemps avec Lucien. On a déjà fait beaucoup de projets, donc on se connaît vraiment très bien. Donc aussi le fait que ce soit Lucien qui réalise et qui joue le rôle principal nous permet quand même de pouvoir travailler peut-être la finesse que vous avez vue. En tout cas, pour nous, c'est un confort énorme, quoi. C'est-à-dire qu'on peut vraiment penser dès l'écriture ce que va être la série à la fin, ce qui n'est pas toujours le cas quand on n'a ni le personnage principal ni le réalisateur. Voilà.
Le personnage de Joseph est très habité par ce que je suis aussi dans la vie. On a pris deux pôles, on a pris Colombo, mais on a pris aussi ma personnalité, ce que je suis dans la vie, c'est-à-dire le bordélique. Non, mais il y a tout le côté familial et puis des thématiques, parler de racisme, mais tout ça très en douceur, parler de la position des femmes dans la société, mais tout ça avec toujours beaucoup d'humour, délicatesse. Ensemble avec Seb, on avait fait Il a déjà tes yeux. Je sais pas si vous connaissez ce couple de nerds qui a adopté un bébé blanc. Voilà, on a pu à chaque fois on s'amuse avec des thématiques et dans cette série on a essayé de glisser des thèmes qui nous intéressent et de choses auxquelles je suis sensible au quotidien.
Et on a eu l'occasion de vous recevoir d'ailleurs pour cette série, pour le film aussi. On était là dès le film, hein, je m'en souviens.
Bravo.
Et on est là à vos côtés, et s'il y en a qui sont là à vos côtés, Lucien et Sébastien, et qui sont un soutien sans faille, c'est Mathieu Ageron, justement les producteurs, puisque vous étiez là déjà pour Il a déjà tes yeux.
Tout à fait, ça fait des années qu'on bosse ensemble avec Lucien, et ce qui est super, c'est qu'à chaque fois, en fait, il arrive avec des personnages qui sont faussement naïfs. En fait, il joue sur cette fausse naïveté pour arriver sur des sujets de société, d'arriver avec un regard un peu décalé, et toujours par le prisme de la comédie, mais raconter notre société. C'est vraiment ça qui est le fil de Lucien, et en fait, qui nous touche, nous, chez Nolita, avec Zamba. Enfin, on raconte la société à travers ce personnage-là. C'est ça qu'on adore.
Malgré tout, dans ce personnage de Joseph, qu'est-ce qui vous a plu chez Nolita tous, pour le coup, et toi particulièrement, Mathieu?
Bah, c'est ce côté déjà marrant. Déjà, en fait, on est sur un personnage qui est très drôle et en fait qui nous ressemble, parce que c'est pas un personnage de flic qui va être habité, très noir, etc. En fait, on va se retrouver sur un personnage qui se retrouve avec des problématiques un peu de tous les jours. Il a une femme ou peut-être une future ex-femme, il y a toujours cette question-là. Il a un ado, il a une mère envahissante. Il essaye en fait de gérer sa vie au mieux qu'il peut, avec en plus cette problématique d'enquête, etc. Et on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose d'ultra universel dans ce qu'il racontait. Donc c'est ça qu'on aime.
Il y a plein de sujets évoqués, et c'est le domaine de la restauration qui va être au cœur notamment de ce premier épisode. Ouais. Et c'est vrai que Joseph est toujours sur un fil. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ça sonne en écriture dans ce personnage que t'incarnes, Lucien, c'est que le meurtrier ne le voit jamais venir. Le meurtrier croit toujours qu'il va taper à côté.
Oui, c'est un principe qu'on retrouve dans tous les épisodes, c'est-à-dire que voilà, ce personnage arrive, il est complètement inoffensif, et il y a ce côté tutos qu'il y avait chez Columbo, c'est-à-dire ce naïf qui pose plein de questions, et c'est des questions sincères, comment marche une cuisine, comment fonctionne un restaurant. Donc on avait aussi cette responsabilité avec Seb, c'est dans chaque domaine, chaque arène comme on dit à la télé, chaque milieu différent, le golf, la gastronomie, la musique, eh bien d'apporter aux téléspectateurs un petit supplément d'information, comment fonctionne un grand orchestre, etc., etc. Et donc on avait aussi cette charge.
Oui, parce qu'on a l'impression qu'il est très pointu sur plein de domaines finalement, Joseph.
Oui, et puis on sait, par exemple, ce qui nous a plu quand on choisissait les arènes, on a pris des domaines qui nous intéressaient. C'est-à-dire que moi, ça fait 40 ans que je joue au golf, donc j'ai plus le golf. Sébastien adore la musique classique, donc on est parti sur la musique classique. Et donc voilà, on s'est amusé. Il y a eu quelque chose de très ludique dans la création de cette série, parce que voilà, on avait envie d'aller sur des terrains de jeu qu'on ne connaissait pas ou qu'on avait envie d'approfondir, ou des choses qui nous intéressaient. Et tout ça se ressent à l'écran, et pour moi, comédien, c'était assez jouissif. Vraiment, quand par exemple on a Jean-Marc Barr qui fait un grand capitaine, un grand skipper, et bien moi, quand j'avais Jean-Marc Barr en face de moi, j'avais Jean-Marc Barr, je sais pas comment vous dire, et du coup ça aidait au jeu. Je lui disais, vous savez, parce que je me souvenais du Grand Bleu,
et ça nous impressionne toujours, et quand on voit la simplicité et la sympathie du gars, oui. C'est
oui,
dingue,
il est exceptionnellement sympa, vraiment. J'ai eu de la chance sur cette série, à part un ou deux, non je rigole. Et non, vraiment, c'est à chaque fois le comédien, le réalisateur que je suis avait un plaisir incroyable à échanger, à jouer avec les différents assassins, les différents comédiens qui interprétaient les rôles de méchants.
Et puis alors il y a du guest, hein, parce qu'alors Dounia pour cette première soirée, évidemment, il y a Claire Borotra. La semaine prochaine, on aura les deux Alice, Alice Paul, Alice Taglioni. Oui. Pour la dernière soirée, nous attend Jean-Marc Barr notamment. Enfin, c'est fou, quoi.
Pauli Girardot et
Mathieu Spinozzi
qui est super incroyable, qui joue dans justement l'épisode sur l'orchestre symphonique, et qui est lui-même violoniste virtuose, que les gens ne savent pas, fils d'un grand chef d'orchestre, donc qui joue lui-même du violon, ce qui est exceptionnel dans la série. Dans l'épisode.
Bon, et puis ça, pour ce printemps, ça va être aussi l'occasion de découvrir, pour ceux qui n'ont pas vu ton film au cinéma, ton dernier film, oui. De le découvrir en DVD ou VOD. C'est sa deuxième vie qui commence, mon cher Lucien.
Allez le voir, c'est vraiment très bien. En parlant une fois de plus, il y a beaucoup d'humanité dans ce film, avec des acteurs formidables, Darmon, Isabelle Nanty. Rien à dire.
Comme dans tout ce que tu fais, de toute façon, c'est clair. On va parler évidemment restauration dans cet épisode. Une Dounia Cossins, peut-être comme vous l'avez jamais vue, un peu flippante. Et puis on ressent de l'empathie pour ce personnage, mais on va le présenter dans un instant. Dounia, tu restes avec nous?
Oui, tout à fait, à tout de suite.
On va écouter la bande-annonce de Joseph et on revient juste après avec Dounia Cossins. Merci Mathieu, merci Lucien, merci Sébastien d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup, à bientôt.
Merci, à très vite.
Je te présente mon fils Joseph.
Bonjour.
Il est de la police.
Oh, oh! Je suis de la police, voilà ma carte.
Ah, t'es là.
Me fais pas le cliché sur les Martiniquais, hein. Si je suis en retard, c'est parce que je suis en plein divorce, donc j'étais chez l'avocat avec ma femme. Et puis en sortant, on s'est pris la tête. Oh.
Ah. T'as trouvé quelque chose?
Ouais. J'ai faim. On a un mobile, l'arme du crime, les traces de pas sur les lieux du crime.
Coucou.
C'est presque trop beau.
Vous pensez que quelqu'un...
Ah non, 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 non. Ah. Mais...
Et c'est là qu'il y a un truc bizarre.
Tu crois vraiment qu'elle serait allée jusque-là?
Attends, je te rappelle. Tu vois pas que je bosse?
Ok, je n'ai pas dérangé plus longtemps la police française.
Oui, je suis la police française, maman. Alors?
Une sympathie naturelle, un flair redoutable. Joseph, votre nouvelle série
bientôt sur TF1.
Voilà, Joseph, hein, vous venez d'écouter la bande-annonce en tout cas, et ça débarque cette semaine sur TF1. Vous allez découvrir les deux premiers épisodes et surtout, vous allez découvrir notre guest qui est avec nous ce soir. Pour en parler, elle sera dans le premier épisode que vous allez découvrir. C'est Dounia Cossens. Bonjour Dounia.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. T'es une habituée de l'émission. T'es presque une sociétaire, je dirais. Tu viens quand tu veux, tu le sais ici. Et il faut dire que là, c'est un rôle complètement à contre-emploi et un petit peu différent de ce que tu as pu faire jusque-là, qui va nous être proposé parce que le principe de Joseph, comme on le disait il y a un instant, c'est qu'on sait direct qui a tué.
Oui, totalement. Il s'est inspiré de Columbo, donc on voit qui a tué directement. Et après, le Joseph, donc le policier principal interprété par Lucien Jean-Baptiste, devine assez rapidement qui est le meurtrier. Et c'est un jeu d'échecs, un jeu du chat et de la souris entre deux pour qu'il arrive à coincer le meurtrier.
Démasquer.
Démasquer, exactement.
C'est ça qui est assez chouette. Alors, évidemment, là, tu sais que tu t'es grillé quand même pour entrer dans Ici Tout Commence, parce que avoir ta tenue avec le couteau, t'es vraiment flippante. Et ils sont pas prêts de te prendre dans Ici Tout Commence. Ça, du coup, hein.
C'est vrai, en même temps je vais pas faire toutes les quotidiennes, mais oui c'est vrai. Mais il y a, c'est marrant d'ailleurs, je l'embrasse, il y a une comédienne de Ici Tout Commence dans mon épisode. Mais effectivement je suis assez flippante de ce qu'on m'a dit, donc je suis contente, ça veut dire que mon personnage fonctionne. Mais voilà, c'était vraiment un plaisir d'interpréter Adèle. En plus moi j'adore cuisiner, donc je suis quand même partie faire un stage 48 heures dans un restaurant étoilé de mon ami que j'embrasse très fort, Laurent Peugeot, qui est un chef étoilé, qui a un restaurant qui s'appelle le Charlemagne à Beaune, et je suis partie le voir 48 heures pour qu'il m'explique comment fonctionnait une cuisine, comment m'imprégner de l'ambiance. Et ça m'a vraiment aidée pour le personnage aussi, parce que Adèle est à bout, on essaie de lui enlever son rêve d'ouvrir un restaurant, et je me suis rendu compte que chef c'est quand même épuisant. Il faut tous les jours changer de menu, avoir de l'inspiration, et c'est aussi être chef d'entreprise.
On découvre un univers impitoyable.
Impitoyable. Et vraiment, se raconter mon ami, il était debout à 4h du matin, il se couchait pas avant 1h du matin, il dormait 3h par nuit. Il faut gérer à la fois le restaurant et son équipe et avoir des idées artistiques pour le menu. Et du coup, c'est vrai que mon personnage tient à son rêve, mais le fait qu'on peut lui enlever ça, ça l'a rendu assez dingue.
Voilà. Ce qui est dingue, c'est qu'on, justement, tu amènes aussi, malgré tout, une espèce d'empathie, alors que c'est toi la meurtrière, on le sait dès le départ, et on éprouve, mais vraiment une empathie pour Adèle.
Oui, c'est vrai. Dans cet épisode, on a, ce que j'aime bien, parce que moi, j'ai regardé des Columbo, justement, avant, et parfois, on a de l'empathie pour le meurtrier, et à la fois, on a envie que Joseph, rende justice, et à la fois, parfois, on a envie que, qui ne soit pas
sous ses radars.
Exactement. Mais en même temps, elle a fait ça pour sa famille et pour réussir son rêve. Et vraiment, celui qu'elle a tué, c'est un pervers manipulateur. Donc voilà, rien ne justifie un meurtre, mais on la comprend quelque part.
Quand Lucien Jean-Baptiste t'appelle pour jouer un guest dans sa nouvelle série, qu'est-ce qui se passe dans ta tête?
Alors, au début, c'est vrai que j'y croyais pas tellement. On m'a demandé si j'étais disponible et si ça me disait en me renvoyant le scénario. Et on m'a dit que les autres guests des 5 autres épisodes, c'était Alice Paul, Alice Taglioni, Jean-Marc Barr, Hippolyte Girardot. Je me suis dit, bon, je vais donner mon nom, je vais dire oui, mais je serai sûrement pas prise. Et puis, en fait, si. Lucien ne me connaissait pas.
C'est même là pour ouvrir la série, quand même.
Exactement. Lucien ne me connaissait pas. Je sais que c'est les gens de TF1 qui lui ont dit que ce serait sympa pas de me prendre. Et il y a une première rencontre avec Lucien qui a tout de suite matché, fonctionné. Mais je suis très heureuse parce que Lucien a écrit, réalise, joue dedans. C'est un projet auquel il a mis son âme, tout son talent. Et c'est vraiment quelqu'un de super sur un plateau, qui dirige très bien les comédiens, qui est là pour tout le monde jusqu'au dernier figurant, qui est un être humain incroyable. Et je ne sais pas comment il fait, parce qu'il joue le personnage principal, il réalise, mais il écrit et il a une patate et une énergie pour prendre soin des autres. Et c'est très agréable de travailler avec lui, donc je le remercie vraiment.
Bon, belle expérience en tout cas.
Très belle expérience, ouais, ouais.
Bon, il y a plein de choses qui arrivent évidemment, ça a été un carton incroyable en octobre dernier, Tom et Lola, une toute nouvelle série qu'on avait tellement hâte de découvrir, et je dois t'avouer que ce binôme non seulement fonctionne à merveille, mais une saison 2 est déjà sur les rangs, puisque déjà une partie a été tournée.
Exactement, on a tourné les 4 premiers, là je sors du tournage, on a fini hier, on réattaque les 4 prochains mi-mars et 4 autres en juin. On est très heureux que ça ait fonctionné, parce qu'on a mis toute notre énergie dedans avec Pierre-Yves Bon, que j'embrasse très fort, qui joue Tom, et voilà, et on est vraiment, j'ai rarement tourner avec un comédien qui soit aussi sincère, naturel dans le jeu et à l'écoute. Tout le monde nous dit que notre duo fonctionne très bien à l'écran, mais c'est parce qu'on est devenus très amis aussi dans la vie. Et il n'y a pas de problème d'ego, on est juste là pour s'amuser, pour créer. Et c'est un vrai plaisir.
Les paysages aussi, hein, sont vraiment les décors. Enfin, c'est magnifique où vous tournez.
C'est magnifique. On devait peut-être tourner à Marseille à la base, et je trouve que ça a été un très bon choix d'aller plus du côté de Toulon, la Seine-sur-Mer, qui, pourtant, je suis du sud, mais je connais moins cette partie-là.
Hâte de nous faire découvrir à l'automne la saison 2.
Ouais, hâte. Ouais.
Tu reviendras évidemment pour nous en parler. Autre rôle qui a fait un retour inattendu dans Demain nous appartient quand même, hein, avec cette espèce d'héritage. Ryan, elle a retrouvé son fils et tout, et puis elle est repartie au bout de 3 semaines à moi. Mais il se passe quoi? Est-ce qu'elle va revenir?
Bah pour l'instant, non, c'est pas prévu.
Dounia n'aurait pas le temps, peut-être.
Pour l'instant, non, mais voilà, je devais revenir aussi pour que le personnage de Ryan ait une famille, parce que c'est vrai que j'ai laissé mon fils tout seul, donc il fallait que je lui annonce qui était son père. Donc maintenant qu'il a une famille, c'est plus pratique aussi pour lui et pour les auteurs d'écrire. Voilà, mais j'étais très heureuse. Alors ça a été rapide, hein, mais c'est très intense, ces 3 semaines, 1 mois de tournage. J'étais très heureuse de retourner. Déjà, je trouvais que l'intrigue était super, et j'étais contente de retrouver Samy, Sacha, voilà, qui sont des personnes avec lesquelles j'adore tourner. Donc voilà.
On sent que Demain nous appartient, en tout cas, c'est un rôle qui aura marqué aussi, hein, ta carrière. Comme quoi, tu n'auras pas été étiquetée Johanna Marcy à vie, quoi. C'est ça qui est chouette.
Non, ouais, c'est chouette, mais je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est marrant. Avant, c'est en train de s'ouvrir maintenant, mais avant, les producteurs et les réalisateurs avaient peur de prendre des comédiens venant de quotidiennes, de peur que le public les identifie trop à ce personnage. Mais en fait, non, les gens, quand ils t'ont aimé quelque part, ils ont envie de te voir ailleurs. Et moi, aujourd'hui, dans la rue, on peut m'appeler Johanna, mais on m'appelle Romy, on m'appelle Emma, on m'appelle Lola, enfin voilà, donc, et on m'appelle Dounia aussi, je suis un peu schizo d'ailleurs, même plus. Mais voilà, je pense que non, à partir du moment où les gens aiment un personnage ou un comédien, ils ont envie de le découvrir aussi ailleurs. Voilà.
C'est vrai, t'as tout à fait raison, et c'est une grosse erreur de pas vous faire appel, et c'est bien, parce que t'es la preuve vivante en tout cas que tu peux faire plein d'autres choses, et on a toujours grand plaisir en tout cas. C'est Joseph, c'est cette semaine sur TF1, on va découvrir les 2 premiers épisodes, ne ratez pas le premier, vous allez voir Dounia comme vous l'avez peut-être jamais vu, je vous le dis, et puis on te retrouve bientôt dans la saison 2, à l'automne évidemment, de Tom et Lola pour de nouvelles aventures, et évidemment, merci à toi.
Merci à toi.
Bon tournage pour la suite.
Merci, à très bientôt du coup, j'espère.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. Tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé.
Un peu trop dans ma tête, un peu trop d'ego. Donnez-moi la recette pour sortir du lot. Je serai la vedette si je manie les mots. Est-ce qu'il me trouve bête, suis-je un fardeau? Quelle est la porte pour sortir de l'ordinaire? Quelle est l'école qui m'apprendrait ce que je dois faire? Est-ce que je dois parler plus fort ou rire à tes vannes? Est-ce que je dois sourire encore pour que tu me trouves pas banal? Est-ce que je dois faire un effort, un truc illégal? Ou bien je me barre et je t'ignore pour que tu me trouves pas banal? Da, 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 da. Le sens de leurs mots. Je me mets une étiquette qui colle à ma peau. Mais est-ce qu'elle me reflète ou est-ce un rôle? Quelle est la porte pour sortir de l'ordinaire? Quelle est l'école pour devenir populaire? Est-ce que je dois parler plus fort ou rire à tes vannes? Est-ce que je dois sourire encore quand tu me trouves pas banal? Est-ce que je dois faire un effort, un truc illégal? Ou bien je me barre et je t'ignore pour que tu me trouves pas. Sentimental, sans santé mentale, c'est si banal. Est-ce que je dois parler plus fort ou rire à tes vannes? Est-ce que je dois sourire encore quand tu me trouves pas banal? Est-ce que je dois faire un effort, un truc illégal? Ou bien je me barre et je t'ignore quand tu me trouves pas banal?
Yeah. retrouver toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute on écoute la télé. Chute on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre deuxième coup de cœur ciné cette semaine est consacré au film Dans la cuisine d'Anne Nguyen. Ça sort mercredi au cinéma. On a la chance aujourd'hui d'avoir le réalisateur Stéphane Linkong qui est avec nous. Bonjour Stéphane.
Bonjour à toutes et à tous.
Merci d'être avec nous. Et Clotilde Chevalier, également l'actrice principale qui joue Yvonne Nguyen justement. Bonjour Clotilde.
Bonjour.
C'est un film musical, on n'en voit pas beaucoup au cinéma. Ça donne le peps, il y a de la couleur, il y a de la joie, il y a plein de choses. Il y a aussi des choses un petit peu plus sombres dans la relation entre Yvonne et sa maman, mais il y a plein de choses explorées en fait dans ce film qui apporte une vraie bouffée de bonne humeur pendant 1h34, Stéphane.
Oui, effectivement, vous l'avez dit, la joie, c'est une de mes premières envies en faisant le film. C'était de transmettre, de partager de la joie. Après, il y a des aspects plus sombres, comme vous l'avez dit également, des aspects plus sérieux, parler de quête identitaire, de comment trouver sa place quand on grandit entre deux cultures, mais aussi parler de racisme ordinaire, de manque de représentation de la diversité dans les arts. Mais tout ça avec un peu de plume rose, des paillettes et des chansons.
Un film musical, c'est difficile à faire ou pas, Stéphane? Comment on s'entoure? Parce que j'imagine qu'il faut un chorégraphe. Il y a toute une mise en scène particulière par rapport à un film normal.
Oui, forcément, il y a plus de contraintes, de spécificités, à savoir musique, chanson, chorégraphie, etc. On essaye de bien s'entourer, mais comme pour n'importe quel autre poste important du film, on communique beaucoup, on essaye de choisir des gens avec qui on partage la même sensibilité. Et si tous ces ingrédients sont réunis, ça se passe bien et là ça s'est bien passé.
On va y découvrir donc le parcours d'Yvonne, qui est une femme qui rêve d'une chose, c'est d'être, on va dire, au firmament dans une comédie musicale hyper reconnue et qui va devoir composer avec une mère, alors je vais pas dire tyrannique, mais une mère qui, elle, la voit plutôt à ses côtés, dans la cuisine du restaurant familial, la cuisine des Nguyen. Mais c'est aussi une quête d'émancipation pour Yvonne.
Oui, absolument. Yvonne, elle est fan de comédie musicale. Elle adore ça. Elle a déjà une bonne trentaine d'années. Elle voudrait en faire son métier, mais elle galère. Clairement, c'est une loseuse. Et parce que la vie fait, elle doit retourner vivre chez sa maman. Donc à ce moment-là, elle se retrouve avec quelque part une personne qu'elle ne connaît pas si bien que ça. Elle a la sensation d'être incomprise depuis des années parce qu'elle a l'impression qu'effectivement, elle a raté sa vie. Parce que sa mère pense qu'il faudrait avoir un vrai métier, que l'art n'est pas un vrai métier, qu'effectivement, reprendre le restaurant est une option.
Toujours comparé à son cousin Georges aussi, qui lui est un symbole de réussite dans la famille.
Mais bien sûr, il est médecin, évidemment. Mais au-delà de ça, Yvonne s'accroche à ses rêves, continue à imaginer qu'il y a des choses à faire. Elle décide avec entourée. Elle aussi très bien entourée, notamment de son amie Coco, de raconter des histoires. Alors, on va pas tout spoiler, mais vous voyez, c'est un personnage qui va évoluer et qui va se reconnecter à ses racines grâce à sa maman, qui elle aussi va s'ouvrir un peu au fur et à mesure du film.
Mais elle va devoir passer par la rébellion quand même. Il y a plusieurs phases dans ce personnage.
Oui, mais parce que le film, est nourri d'aventures et de mésaventures. On la suit où ça se passe pas super bien dans sa vie amoureuse et professionnelle. Et puis, elle reconnecte tous les ingrédients qui sont forts dans sa vie, c'est-à-dire les amis, la famille et l'amour pour la comédie musicale.
Ce qui est incroyable, Clotilde, c'est que vous êtes une grande chef réputée sur la ville de La Rochelle. Comment on passe justement de chef cuisinière à la comédie ?
Alors, je ne sais pas si je suis une grande chef réputée, je suis juste chef de cuisine. En fait, c'était quand même mon premier métier. Pendant 10 ans, moi, j'ai vraiment fait de la comédie musicale. Comme Yvonne, je me suis acharnée, j'ai travaillé dur, mais il n'y avait pas de rôle pour moi parce que on est française, on est d'origine asiatique, on ne reconnaît pas. Mais que ce soit d'ailleurs dans la scène musicale ou à l'écran, il n'y avait pas de rôle.
Il n'y a pas pour jouer Mulan, comme ça a été un peu évoqué.
Mais sauf que Mulan, ça n'a pas été monté, alors, sauf à Disney peut-être pour la parade. Et du coup, forcément, il arrive un temps où je vais avoir 30 ans et je me dis je vais pas avoir envie de toute ma vie faire masse style, geekette informatique ou femme d'affaires hongkongaise. C'est un truc qui m'intéresse pas parce que c'est toujours des micro-rôles, en plus c'est pas forcément un rôle avec une psychologie hyper intéressante, donc je décide de faire de la cuisine. Et c'est Stéphane qui me recontacte, alors parce qu'on a déjà travaillé ensemble et que j'ai déjà interprété le personnage d'Yvonne sur scène dans un spectacle qui s'appelait Cabaret Jaune Citron, qui me fait sortir de mes fourneaux pour tenter l'aventure sur grand écran.
C'est un peu l'adaptation justement du spectacle Cabaret.
Alors, ce n'est pas une adaptation dans le sens où dans Cabaret Jaune Citron, il se passait pas mal de choses différentes et c'était vraiment une écriture différente avec voilà des adresses au public, des chansons beaucoup plus longues, des vrais numéros, mais qui arrêtaient un peu la narration. Mais on peut se permettre ça sur scène. On part du même personnage avec ses problématiques. On le développe vraiment dans une fiction de long métrage avec une écriture plus cinématographique. Mais le spectacle est une inspiration en tout cas.
Alors c'est ça qui est chouette, c'est que c'est vraiment tout un mélange de musique, de scène à préparer bien évidemment, hein, puisque ça on oscille sans arrêt justement entre les deux paramètres. Qui a chanté ? Est-ce que Clotilde t'a poussé à chansonnette vraiment, ou est-ce que t'as été doublée un peu pour certaines chansons ? Comment ça s'est passé ça ?
Ah bah j'ai n'ai aucun doubleur, doubleuse sur quoi que ce soit.
T'as tout chanté ?
Bien sûr, bah oui, c'est le challenge, c'est qu'on fait une comédie musicale et Stéphane tenait à ce que tous les comédiens, comédiennes sur le plateau chantent en réel, donc ce sont toutes les vraies voix. C'est une passion la chanson que j'ai trouvée quand j'ai fait mes études de comédie musicale il y a quelques années et j'avais la chance à La Rochelle de travailler avec un ami. Enfin, un ancien collègue est devenu un ami qui lui jouait du piano et on s'était dit que ça nous manquait les arts, donc tous les mercredis après-midi à la coupure on chantait, on jouait ensemble et ça m'a permis de garder un peu le niveau entre guillemets pour continuer à chanter. Mais oui, c'est important, on n'a pas de doublure.
Voilà, on va jamais garder Clotilde cuisinière à La Rochelle, c'est pas possible. Quand on voit le résultat, Stéphane, ça a été une évidence justement d'aller chercher Clotilde pour ce rôle.
Oui, en fait, quand on a travaillé ensemble, donc il y a une bonne douzaine d'années sur Cabaret Jeune Citron, Clotilde a créé le personnage d'Yvonne. Elle a apporté beaucoup d'elle-même, ce côté solaire, cette bonne humeur communicative, qui a influé aussi dans mon écriture. Et moi, j'aime bien être fidèle en amitié et dans le travail. Et je me suis dit, en fait, il y a une évidence, il faut que ce soit Clotilde. Donc j'ai écrit le personnage de telle manière. Et ensuite, j'ai eu la chance que ma productrice me suive dans ce choix, que les interlocuteurs qu'on a eu face à nous, que ce soit Canal+, nos distributeurs, etc., ne remettent jamais en cause ce choix. Donc j'ai vraiment eu cette chance-là. Je suis content d'avoir pu le faire.
Il y a des scènes, on disait de joie et de musicalité, mais il y a aussi des scènes extrêmement émouvantes avec le personnage de ta maman et de ta tante.
Oui, je me suis même fait surprendre, par exemple, ne serait-ce que la première scène où Yvonne rentre chez sa maman. Dans ma façon de l'appréhender, dans le travail, je me suis dit, ok, très bien, bah Yvonne, elle arrive en super loseuse chez sa mère, elle est pas fière, et puis basta. Et en fait, pour le coup, c'est Anne, donc qui joue le rôle de ma maman, qui m'a donné une émotion. Elle s'est retournée vers moi. J'ai vu ses yeux me parler et je me suis fait surprendre. Enfin, moi, la comédienne, je me suis fait surprendre dans mon personnage. J'ai fait, ok, très bien, je crois que ça va être le démarrage de quelque chose qui est beaucoup plus sensible, beaucoup plus émouvant que ce que j'avais imaginé. Je dis pas que c'est un film où les gens vont pleurer, on espère plutôt qu'ils vont rigoler, mais...
C'est une comédie avant tout.
Exactement. Mais voilà, peut-être que certains se feront surprendre par cette émotion.
En tout cas, c'est un très joli film, hein, qu'on vous incite à aller voir. Ça s'appelle Dans la cuisine d'Anne Guyen. C'est donc mercredi au cinéma. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Comment vous vous sentez à 2 jours de la sortie, là, tous les deux ?
Bah là, c'est hyper grisant. On a hâte de laisser le film enfin aux spectateurs.
Et de retourner en cuisine ?
Oh, je retourne en cuisine, oui, dès lundi.
Stéphane.
Oui, c'est grisant, c'est stimulant, c'est un peu stressant aussi parce que c'est un bébé que j'ai porté très longtemps et là il va vivre sa vie. Donc j'ai laissé vivre sa vie mais je suivrai ses premiers pas avec beaucoup d'attention.
Bon. Dernière question pour la cuisinière. Mm-hmm. Clotilde, est-ce que t'as un plat signature ?
Alors j'ai pas de plat signature. Enfin, ce que je propose, c'est des choses que j'aurais envie de manger. C'est des choses que j'ai senties, que j'aime bien proposer parce qu'il y a des petites touches des fois de voyage, des petites épices un peu différentes. Ça, c'est pas pour moi une cuisine qui est révolutionnaire parce que voilà, on est quand même dans un bistrot où faut que ça plaise aux gens qui sont là tous les jours parfois ou juste à l'occasion. Mais voilà, c'est des choses j'ai envie de dire simples que j'ai envie de faire fraîches de saison et qui j'espère raviront les papilles.
Si vous venez en vacances du côté de La Rochelle ou si vous habitez dans cette région, n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour goûter la cuisine de Clotilde. C'est au Bistrot du Golfe et c'est à La Rochelle. Voilà. Allez, la cuisine d'Anne Guyen, c'est donc mercredi au cinéma. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. On va se quitter avec la bande-annonce en musique. À très vite.
Merci.
Merci.
Découvrez notre nouveauté, les Namizza aux saveurs italiennes.
Figuration jeune femme brune méditerranéenne.
Bonjour, j'ai pour l'audition. Yvonne Nguyen.
Thank you.
bravo tout le monde, hein. Et on a fait 6 euros.
6 euros ?
Ouais.
Faut que t'abandonnes la comédie musicale. On a toujours besoin de prospecteurs téléphoniques.
Mais qu'est-ce que tu fais ?
Je dois avancer.
Coucou maman.
Congai ! Qu'est-ce que tu fais ici ?
Tu fais une monde ?
Non, moi c'est Yvonne.
Je vois une geisha, une vendeuse de bubble tea sur la place Tiananmen.
Un conseil, chérie, si tu veux travailler, tu fais ce qu'on attend de toi. Pour une fois que je peux passer une audition pour un vrai rôle dans un grand spectacle.
Sympa pour moi.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Allez, lundi prochain dans Chute, on écoute la télé. On aura le grand plaisir de recevoir Samuel Le Bihan pour sa toute nouvelle série Carpe Diem sur TF1. On aura le plaisir de recevoir Enya Barou, Hélène Vincent et Juliette Gasquet pour la sortie du film. On ira. Marie Malia sera également avec nous pour la mini-série Après la nuit. Et puis spécial Tropique Criminel avec Béatrice Dehaboulé et Sonia Roland.
Le rendez-vous des stars. C'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier en Nouvelle-Aquitaine. Des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les sorbets, crèmes glacées, cônes artisanaux et la nouvelle gamme de pots gourmands, Jade et Ali, disponibles dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Et retrouvez les boutiques, les ateliers de Langélis à Pontaillac, La Rochelle, La Cotinière et Bordeaux. Chut, on écoute la télé avec vos boutiques de prêt-à-porter Speak en Nouvelle-Aquitaine. Speak, c'est la mode homme, femme, des pépites chaque semaine pour tous les budgets. Mais Speak, c'est aussi un corner seconde vie pour les vêtements que vous ne portez plus. Alors n'hésitez pas. Plus de 15 boutiques Speak vous attendent en Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez toutes les adresses et la boutique en ligne sur speak.fr.